بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مشافون الإسلام نكمبليتون سوسوار إن شاء الله حديث ابن عباس رضي الله عنهما qui lorsqu'il était enfant avait reçu des conseils extrêmement importants de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. مربي الأمة, celui qui a été envoyé par Allah Azza wa Jal pour éduquer la Umma, pour leur enseigner les ordres d'Allah Azza wa Jal, pour faire la tazkiya, pour faire la purification intérieure de chaque être humain et de, pour les enseigner la, le kitabullah, la parole d'Allah Azza wa Jal. Ibn Abbas radiallahu anhuma est un enfant, il est près du prophète alayhi salatu wa salam sur la même monture et notre prophète alayhi salatu wa salam va lui donner des conseils en or. Conseil qui est profitable pour un jeune, pour un enfant, pour un jeune, pour un adolescent, pour un adulte. Conseil qui peut être appliqué à n'importe quelle époque et quel que soit le lieu géographique et quelle que soit l'époque. Et c'est ce qui fait la caractéristique, la spécificité de notre dîn, une religion qui est simple, qui est praticable, qui peut être mise en pratique par n'importe quelle catégorie de personnes, quel que soit le contexte, quel que soit le lieu. Ce ne sont pas des enseignements réservés à une élite. Il faut être musulman plus 15 années d'ancienneté dans l'islam pour pouvoir mettre ces ordres-là en pratique. Abadan, la personne qui a lu la shahada aujourd'hui, il peut mettre ses enseignements en pratique. Un enfant peut mettre ses enseignements en pratique. Un ancien peut mettre ses enseignements en pratique. Quelqu'un qui a passé sa vie dans la jahiliya, dans l'ignorance, dans la dalala, hein, dans la perdition, dans les péchés, et qui revient vers Allah Azza wa Jal, il prend ce hadith, il le met en pratique, il développe les qualités du mu'min. Un jeune qui grandit, qui découvre la vie, qui est un bon papa, parce que le jeune ne pourra pas l'apprendre tout seul. Le jeune ne va pas prendre Riyad al-Salihin, il va voir les commentaires et dire « Ah, je vais apprendre comme ça ». Non, le prophète alayhi salatu wa salam véhicule le message à Ibn Abbas radiallahu anhuma. C'est-à-dire qu'il y a le murabbi, il y a l'éducateur. Parce que l'enfant ne va pas parfaire son éducation tout seul. Il a besoin d'une personne pour lui faire passer le message. Et donc un jeune qui a 7 ans, 8 ans, qui a la chance d'avoir des parents qui ont le souci du dîn, qui ont dans leur cœur l'importance de la foi, l'importance du iman, l'importance de la spiritualité, de la relation avec Allah Azza wa Jal, ben des parents qui vont donner cet enseignement à un enfant, cet enfant pourra le mettre en pratique et construire sa personnalité, construire son iman, construire sa relation avec Allah Azza wa Jal, et on verra dans un instant également se renforcer psychologiquement, devenir quelqu'un de fort. On a parfois des gens qui sont pieux, et Allah seul sait, nous on dit pieux, la piété dans le cœur, qui d'apparence, mashallah, ils pratiquent bien, mais il leur arrive un petit souci, un petit problème, ils s'écroulent, ils perdent pied. Ils peuvent même parfois prononcer des paroles, qui peuvent friser le kufr, qui peuvent remettre en question leur iman en Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire que la personne, spirituellement, mashallah, elle est forte, elle fait les a'mal, elle va faire tahajjud, elle va jeûner le lundi, le jeudi, mashallah. Mais face à des situations d'épreuve, la personne perd pied immédiatement, la personne vacille et la personne ne sait plus dans quelle direction aller. Fragilité psychologique. Et on va voir que quand on se renforce sur le plan spirituel, obligatoirement on se renforce sur le plan psychologique. Ce n'est pas pour rien si le prophète alayhi salatu wa sallam dit un hadith connu. Al-mu'minu al-qawiyy ahabbu ila Allah min al-mu'minu al-dha'if wa fi kullin khayr. Que le musulman qui est fort, il est plus aimé par Allah Azza wa Jal que le musulman qui est faible. Mais dans les deux, il y a un khair. Allah aime les deux. Mais Allah préfère celui qui est fort. Et être fort, ce n'est pas synonyme d'être riche. Il ne faut pas croire. Ben lui, il est fort parce qu'il a les poches pleines, donc il marche à tête haute. Abadan, bil'ax. Bien au contraire. Être fort, ce n'est pas non plus synonyme d'être costaud. Je suis fort si je fais 1m80, 80 kg, je suis comme un frigidaire quand je marche, comme elle a moi. Lui, il est fort. Abadan, Fassam m'a dit, laysa al-qawiyyu. L'homme fort, ce n'est pas celui qui a de la force physique, c'est celui qui se contrôle inda al-ghadab. Exemple. Ça, c'est un hadith qui prouve, qui donne une description du qawi, de l'homme fort, de le dîn. C'est celui que dans les moments extrêmes, dans les moments où n'importe quelle personne se serait emportée, explosée, criée, waïe, là, 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 tcha, tcha. vociférer, crier, exprimer sa haine et ainsi de suite, la personne reste, j'aime pas le terme stoïque parce que ça s'entraîne toute une autre pensée, reste calme. La personne reste calme, la personne se contrôle et la personne prononce des paroles sensées. Ça, c'est quelqu'un qui est fort. Ça, c'est quelqu'un qui est apprécié, qui est aimé par Allah Azza wa Jal. Le musulman qui est fort, c'est celui qui est fort psychologiquement aussi. Quelles que soient les difficultés, par exemple la colère, on va dire c'est un moment de stress psychologique. Et nous réagissons de façon différente. Face à la colère, 80% des gens laissent exploser leur haine, leur sentiment. Ce sont des personnes faibles. Et un petit pourcentage est capable de prendre du recul, analyser, voir la situation, avoir une lecture globale des choses et adopter la bonne ligne de conduite qui fera qu'il ne frappera pas, qu'il n'insultera pas, qu'il ne maudira pas, qu'il ne donnera pas le divorce. Il ne fera pas des choses qu'une autre personne risque de regretter. Tout ça, ça fait un mu'min qawi. Ce n'est pas celui qui a des gros bras, qui gagne des bras de fer, qui peut faire tomber les gens. Là, wallah. C'est celui qui, psychologiquement, mentalement, est le costaud. Khair. Donc, l'enfant qui va mettre, qui aura ce papa, mashallah, qui va l'enseigner. Parce qu'encore une fois, il y a des fois où moi-même je me trompe, je dis que l'enfant qui va mettre ça en pratique, il ne le mettra pas en pratique tout seul. L'enfant qui a la chance d'avoir un père religieux qui se fait du souci pour son iman, sa foi, et qui va l'enseigner, ben ce sont là des leçons qui sont applicables pour un enfant. Si Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, était capable de mettre ses enseignements pratiques en application dans sa vie d'enfant, n'importe quel musulman, à n'importe quelle époque, dans n'importe quel pays, peut mettre ses enseignements en pratique dans sa vie, parce que c'est là l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, yaslahu fi kulli zamanin wa makan, qui est praticable, comme on l'a dit tout à l'heure, à toute époque et en toutes circonstances. Chers frères en islam, avoir un enfant bien éduqué, avoir un jeune, un enfant à qui on a donné husnu tarbiya, une bonne éducation comme l'islam nous le demande, vous ne pouvez pas imaginer ce que cela vous apporte comme tranquillité, comme apaisement du cœur, comme tranquillité même sur le plan psychologique, et surtout, quand la personne prend de l'âge. Quand vous avez 35 ans, 36 ans, la barbe encore noire, encore costaud, il marche, il crie, on a fait nos courses, on porte notre bagage, on porte... Enfin, quoi que certains, 35 ans, qui peut porter aussi. Alhamdulillah, tout va bien. Quand vous arrivez 50, 55, 60 ans, que là, nos forces nous abandonnent, psychologiquement, on revient à chaque fois sur le côté psychologique. Il y a beaucoup de personnes qui vieillissent mal. Et ça, c'est très compliqué. Les personnes, il y a des personnes qui vieillissent très mal. Ils deviennent grincheux. Ils deviennent compliqués. D'accord ? Mais dans des situations comme ça, s'ils ont des enfants, il a un enfant qui est devenu médecin, bac plus 10, il a fait médecine, il est devenu spécialiste en je ne sais pas tel... Ok, il est pneumologue, il est allergologue, il est ce que vous voulez. Ok ? Mais en fait, ce jeune-là n'a pas eu d'éducation islamique correcte. Ok, il y a 7000 euros dans sa poche tous les mois. Il a une belle voiture, il a machin, il a tout. C'est la fierté de son père. Mon fils, ça, il est médecin. Quand il dit ça à ses amis, il dit, ah, ton fils est médecin. Ben, le mien, il est à l'NPE, le mien, il cherche encore du travail. Le mien, il cherche un stage là-bas. Le mien, il attend un petit boulot avec le maire et tout. Le tien, il est médecin, comment il a réussi? Et là, le papa est fier, il dit, moi, je l'ai enseigné comme ça. Je l'ai envoyé à l'école, je l'ai suivi ses études. Je l'ai envoyé au cours privé, j'ai payé, ainsi de suite. Maintenant, il est docteur. Il y a les gens qui font la queue pour les soins avec lui. Fakhar. Est-ce que qui ne serait pas fier de son enfant? Il faut être clair, il faut être honnête, on serait tous contents. D'accord. Maintenant, cet enfant n'a pas eu d'éducation religieuse. Il ne fait pas la salat, il n'a aucune relation directe avec son Seigneur. Et surtout, comme il n'a pas le dîn de sa vie, ben, il vous considère juste comme un père sur le livret de famille. Bas. Sur le livret de famille, c'est écrit Monsieur Alaoui, ça c'est mon papa. C'est écrit Monsieur Hamada, c'est mon père. Mais c'est sur le livret de famille. Bas. Maintenant, file-moi un mala. Dans les échanges, quand le papa a besoin de lui, il dit, est-ce que tu pourrais m'amener chez l'hôpital? Parce que je ne vois pas bien, hein, j'ai opéré la cataracte ou je dois faire ça. Tu vas dire, papa, mais ça ne va pas, qu'est-ce que tu me demandes là? J'ai cours ou j'ai consultation, j'ai telle chose à faire. Tu sais qu'est-ce que je fais comme métier, je ne peux pas me libérer. Dites-moi très clairement, dans cet âge avancé, qu'est-ce qui nous sera le plus profitable? Un enfant qui a intégré ce qu'on appelle en arabe « birrul walidain » l'obéissance, la bienfaisance, pas uniquement l'obéissance. Al-birr, c'est la bienfaisance envers les parents. C'est pas uniquement être gentil. C'est pas uniquement sourire. C'est pas uniquement peut-être même aider financièrement, quoique quasiment plus personne ne le fait. Wallah musta'an de nos jours, qu'on donne un petit monnaie, papa une retraite un peu maigre. On va l'aider. On va lui donner un petit 200 euros, 300 euros. Ça va mettre la joie de son cœur. Ça, machin, s'il y en a qui font, alhamdulillah. Mais ça c'est il y a quasiment plus. Et même ça ne s'arrête pas là. C'est que l'enfant donne de son temps. Il est prêt à aller faire ziyara, voir ses parents yawmiyan, tous les jours. Tous les jours. Quel que soit son âge. Bien sûr, quand il est à la maison, c'est normal. Il n'y a pas le choix. Quand il se marie, il a sa femme, il a ses enfants, il travaille, il a un rythme de vie. Il ne dort pas sans les voir, ses parents. Ça ne vous rappelle pas une histoire, ça? L'histoire des gens de la grotte. Personne dit que quand je retourne, il était, comment on appelle ça? Il était berger. Enfin, il avait plutôt des chameaux. Il dit quand il avait fini de traire la chamelle, c'est qui a déjà bu le lait de chamelle ici? Personne? Moi tout seul alors. Excellent. Très bon. Il faut le boire avec niyat de sunna. Moi quand je l'ai bu, je ne savais pas c'était quoi. Je n'aurais pas bu sinon. Après j'ai bu, mashallah, un gros tasse de lait chaud. Puis on m'a dit que ça c'est naqa. Elle dit, ah c'est pas bakara. Elle dit non, c'est pas bakara. C'était naqa, c'était lait de chamelle. J'ai bu ça dans le désert à Riyad, dans la... Regarde, mashallah, d'excellents souvenirs, mashallah. On revient. Cette personne dit que quand je revenais chez moi, la première personne qui devait boire du lait, c'est papa et maman. Ensuite, madame et les enfants. Une fois, l'enfant dit j'arrive trop tard, mes parents dorment déjà. Il dit que pour lui, c'est inconcevable. Il ne peut pas faire khidma de sa femme et de ses enfants avant de faire le khidma de ses parents. Il dit je suis resté là devant eux. Je ne les ai pas réveillés. Il dit hey, les vieux là, on se réveille, les vieux. J'ai même pas fait de bruit, respecter leur sommeil, respecter leur intégrité et faire le khidma dans la mesure du possible. Il a attendu jusqu'à ce qu'ils se réveillent et là il leur a servi ce lait. Honnêtement, avoir un enfant qui a, et puis quelles étaient les récompenses, Allah a accepté son action, cette action était considérée comme la meilleure action de sa vie et les personnes ont été libérées de la situation. Ça c'est l'histoire, le hadith très connu. Avoir un enfant comme ça, qui réalise l'importance des parents, avoir un enfant qui a intégré les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui stipule que avoir des parents âgés, c'est une ni'ma, c'est une bénédiction de la part d'Allah azza wa jal. Avoir papa et maman qui sont âgés à la maison et qu'on peut donc s'occuper d'eux et qu'on peut donc obtenir le jannah, on peut donc obtenir le contentement d'Allah azza wa jal par le biais d'un khidma qui en soi naturel, ça doit être inné normalement, mais que nous on va le faire avec le iman en plus, avec la connaissance des fada'il, des vertus. Mais subhanallah, quand l'enfant a intégré ça, je vous assure qu'un enfant qui a grandi avec ces principes, quand il voit les parents en train de vieillir, devenir un peu âgés, il va s'empresser de répondre présent pour obtenir le contentement des parents et avec ça le contentement d'Allah Azza wa Jal. Parce que cet enfant, il sait que le prophète a dit « La yadkhulul jannata aq » hadith al-midi. Celui qui a désobéi à ses parents n'entre pas dans le jannah. On a déjà expliqué ça au moins trois fois dans ce majlis. Le muhaddithin, dans le sharh de Nasa'i, de la Tirmidhi, il dit que la personne, même si la personne avait des qualités de, en guillemets, de piété, salat, l'apparence physique, tahajjud, et ainsi de suite, mais la personne n'obéissait pas à ses parents. Il dit que cette personne risque de mourir avec ce qu'on appelle su'ul khatima. Nasallahu salam atul afia. Chaque fois qu'on demande du'a, Allah, nasallaka, husna al khatima. Ou Allah de nous accorder une bonne mort. Une bonne mort, c'est de l'obéissance, de la ta'a, de la prière, de la masjid, de le mois de Ramadan, à Makkah, à Medina, de les bonnes œuvres. Dans une période où on est dans l'ibada, dans le ta'a, dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. On demande toujours protection contre su'ul khatima. Su'ul khatima, c'est de mourir dans une situation où on est en train de désobéir à Allah Azza wa Jal. Qu'Allah nous protège. Il dit que la personne qui a désobéi à ses parents, qui n'était pas proche de ses parents, malgré sa piété concernant les autres acte d'adoration, la personne risque de mourir de la pire des façons sur le khatima, et c'est de cette façon que la personne est éloignée du Jannah. Et ça rejoint le hadith qui nous effraie. C'est certainement des hadiths les plus angoissants. Quelqu'un intègre réellement ce hadith, il ne dort pas ce soir. Le prophète dit qu'il y a des gens qui durant toute leur vie accomplissent des a'mal de Ahlul Jannah, des actions des gens du paradis. Mais avant de mourir, ils font une action qui déplaît Allah Azza wa Jal. Et leur nom est inscrit sur la liste des gens du Jahannam. Il y a une personne, 50 ans, il est de l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. À la fin de sa vie, il fait une action détestable. Il meurt de cette situation. C'était un asbab pour qu'Allah l'éloigne du paradis, l'emmène vers
Il le dirige vers l'enfer qu'Allah nous protège. De l'important de toujours demander à Allah Azza wa Jal la guider, le hdina sirat al-mustaqim qu'on répète énormément de fois. C'est pour qu'Allah nous garde et nous guide dans le droit chemin afin qu'on meure dans le droit chemin. Donc cette personne risque de mourir de la pire des façons, sur le khatima, par rapport à sa désobéissance ou à son éloignement envers ses parents. Et ça, c'est quelque chose de très lourd en conséquence. Contrairement à celui qui, donc, on a dit, qui va respecter, qui va intégrer ses valeurs, une personne qui construit une relation saine avec Allah Azza wa Jal, une personne qui avance de la piété de façon correcte en suivant le Coran et la Sunna, c'est quelqu'un qui va se perfectionner et que cette perfection de la foi va rejaillir sur ses proches, sur sa femme, parce qu'il sera un homme, un mari vertueux, sur ses enfants, parce qu'il sera un père vertueux, sur ses parents, parce qu'il sera un fils vertueux, sur ses voisins, sur son entourage. Bien que le mu'min, le musulman qui perfectionne sa foi, mais en suivant le Coran et la Sunna, en suivant la méthode du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelqu'un qui deviendra profitable, nafi' pour l'ensemble de la société, de la communauté. Et c'est là la différence entre, et je pèse mes mots, entre la piété et ce que, ça c'est un terme moderne, c'est un terme des médias que je n'aime pas, ce qu'ils appellent la radicalisation. C'est-à-dire, de nos jours, on est tellement en train de mélanger tout, qu'on finit par se dire qu'un jeune qui est pieux, attention, il est en train de devenir pieux, il est en train de se radicaliser. Ce sont là deux choses totalement différentes. Quelqu'un qui fait un retour vers Allah par tawbatun nasuha, qui arrête les péchés, qui commence à venir à la masjid, qui fait dhikrullah, qui fait dua, qui fait qiyamul layl, tahajjud, qui jeûne le lundi, le jeudi, 13, 14, 15 de chaque mois, qui va voir ses parents tous les jours, qui va faire khidma de ses parents tous les jours. Subhanallah, un jeune qui revient vers le din, est-ce qu'on appelle ça radicalisation? Ah ben, c'est de la piété. Et de nos jours, on a le langage, les termes techniques sont tellement ambigus qu'à un moment donné, plus personne ne comprend c'est quoi la piété. Et ça, ce serait grave, c'est une parenthèse, de confondre la piété avec autre chose. Quelqu'un qui fait un retour vers Allah, mais comme on a dit, qui suit les principes. Qui suit les principes du Coran et la Sunna, c'est quelqu'un qui va devenir muttaqi, qui va devenir pieux. Et cette piété va lui donner des qualités. Et ces qualités-là lui seront profitables à l'ensemble des personnes qui le fréquentent. Et cette personne deviendra quelqu'un d'aimable, quelqu'un qui sera respecté et aimé par l'ensemble des gens, musulmans ou kafir, par les croyants et les non-croyants. C'est quelqu'un qui ne fera du tort à personne. C'est quelqu'un qui n'insultera personne. C'est quelqu'un qui ne manquera de respect à personne. C'est quelqu'un qui n'osera jamais lever la voix face à une personne âgée, jamais casser le cœur d'un musulman, jamais froisser son frère en islam, parce qu'il connaît que tout ça, ça fait partie du iman. Ça, c'est ce qu'on appelle kamalul iman. Pas quelqu'un qui commence à faire de bonnes actions et qui s'emporte, qui va dans tous les sens. Non. Le taqwa, c'est une construction de sa personnalité de musulman, de sa relation avec Allah, de sa relation avec ses parents, avec sa femme, avec ses enfants, avec les mu'mines, avec les non-musulmans, avec tout le monde. Ça, c'est kamalul iman. Et cette perfection de la foi, qui c'est qu'il avait à 100%? Habibina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ensuite Abu Bakr Siddiq, Omar, Uthman, Ali, les sahaba, les tabi'in, les atba'i tabi'in, et de génération en génération, cette perfection de la foi là, elle a diminué. On verra de le hadith suivant, si on a le temps aujourd'hui, ce hadith d'un sahaba, et un autre fait, on avait expliqué une fois aussi, le sahaba dit que après l'enterrement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a tout de suite senti que il y a quelque chose qui avait changé de la société, de la umma. C'est-à-dire que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, le niveau de spiritualité de iman avait diminué déjà chez les gens qui vivaient à cette époque. N'en parlons plus maintenant à notre époque. Et on va voir là un sahaba qui dit à tabi'in que vous accomplissez des péchés que vous considérez comme, comment on pourrait dire, sans importance, futile, le terme futile, j'aime pas. Vous accomplissez des péchés que vous considérez comme peu importants, alors que nous, à l'époque de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, on les considérait presque comme des kaba'ir. C'est-à-dire qu'en fonction de du iman, la vision des actions bonnes et mauvaises, elle va différer. Quelqu'un qui a une foi solide, il va considérer la moindre bonne action, et j'aime pas la moindre bonne action, même les nawafil, il va les considérer comme extrêmement importants. Je ne peux pas rater ça, parce que le iman est là. Et il considérera même quelque chose qui est makruh, comme étant mauvais, détestable, je ne peux pas m'en approcher. Alors que quand l'iman est faible, mais on ouvre la porte à tout ce qui est makruh, il n'est pas haram, non? Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit, viens pas faire le pieux, laisse-moi faire ce que j'ai envie de faire, et ainsi de suite. Quand est-ce qu'on a ce discours? Quand l'iman est vraiment au ras des pâquerettes. Et que là, on fait les makruh, on fait les choses qui sont limites, ainsi de suite, et peu à peu, on grignote de le haram, on commence à prendre des petits péchés en considérant qu'à notre époque, vu le contexte, ainsi de suite, ce péché n'est plus considéré comme un péché, ainsi de suite. Ça, c'est quand le iman devient faible qu'on adopte ce genre de discours. Et donc, pour revenir à ces conseils-là, subhanallah, les conseils de notre prophète, alayhi salatu wa sallam, ibn Abbas, ce sont vraiment des conseils en or. Que nous, en tant que parents, notre devoir commence là, à prendre ces notions, les mettre en pratique dans notre vie, afin de les véhiculer à nos enfants. Parce qu'on a bien dit là, il y a quelques semaines, que tant que nous-mêmes, on ne met pas en pratique, les enfants ne mettront pas en pratique. Un papa qui dit à son fils, ben, il va faire salat isha, et lui, il s'assoit devant la télé, ça ne va pas marcher. L'enfant, tant qu'il est petit, il aura peur, il va faire. Mais à un moment donné, il dit, écoutez, si c'est vraiment important, il l'aurait fait, lui. Lui est en train de regarder Star Academy ou je ne sais pas quoi, il n'existe plus, hein, non? Et puis il me dit, va à la mosquée. Papa qui fume cigarette, un paquet par jour, dit à son fils, faut pas fumer, ça c'est pas bon pour la santé. Est-ce que ce discours-là, il tient? L'enfant, tant qu'il est petit, il ne raisonne pas. Ok, il se plie aux exigences du papa. Même en donnant ce qu'il va réaliser, il va cogiter, il va réfléchir de lui. Il me dit que si c'était mauvais, mon père n'aurait pas fait. Si c'était mauvais, moi je ne serais pas là, vivant. Il a 50 ans, il est en bonne santé, il vit, il a un enfant, il travaille, et ainsi de suite. Donc, quand on donne l'éducation, nous devons en premier mettre en pratique dans notre vie. Donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, a enseigné à Ibn Abbas, radiallahu anhuma, de pratiquer le mieux possible la religion d'Allah en l'apprenant, en mettant en pratique et en propageant, en faisant la nusra du din d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal guidera tes pas, Allah Rabbul Izzah te protégera. Et quand tu as besoin d'aide, demande toujours à Allah Azza wa Jal, et sache que si tout le monde voulait te faire du mal, personne ne te fera plus que ce qui est écrit dans ton taqdir. Et si les gens veulent t'apporter quelque chose, ne fais pas confiance aux gens. C'est-à-dire, n'attends rien des gens. Ne place pas ton tawakkul, ne place pas ta confiance sur les insans, sur les makhlouqat, mais place ta confiance en Allah Azza wa Jal, parce qu'ils ne t'apporteront rien de plus que ce que ton Seigneur t'a déjà prédestiné. Ce qui veut dire que remercie Allah Azza wa Jal awwalan, en premier. Ensuite, tu peux remercier les gens qui t'ont aidé, qui ont facilité les choses dans telle ou telle situation. Mais lorsque tu seras de nouveau dans une situation où tu auras besoin d'aide, que ton cœur ne s'oriente pas automatiquement vers ces gens-là. C'est-à-dire que, ben oui, c'est lui qui avait fait ça, donc c'est lui. Pareil, et ça c'est, le Ramad a un exemple, on ne veut pas sortir du sujet, il dit même, une personne qui a pris un médicament, il était malade, il a pris un médicament, il a trouvé la santé. Est-ce que c'est le médicament qui donne Shifa? Là, c'est Allah qui donne, Allah qui a Shafi, c'est Allah qui donne la santé. Le médicament, ça s'appelle comment ça? Asbab. Barakallahu fikum. C'est un intermédiaire. Maintenant, la conviction ne va pas sur ce médicament, ce cachet, ou c'est sur Allah Azza wa Jalla. Ce qui veut dire que la prochaine fois que l'on est malade, on ne doit pas avoir conviction, ben, c'est ça, je bois, ça va me donner la santé. Et honnêtement, entre nous, quand vous avez mal à la tête, vous faites quoi tout de suite? Prenez un doliprane. C'est comme ça. J'en ai dans la poche toujours. Ça ne va pas, vous prenez un doliprane, ben, ça va aller. Yaqin, il va sur les asbab. Ça, c'est faussé. C'est un yaqin qui est faussé. Et quand on parle que les gens, ils se réunissent et tout, ou pour te faire du bien ou du mal, par analogie, qu'on parle des gens, après par analogie, tout ce qui est en dessous des gens, les asbab, n'importe quel intermédiaire, il n'y a rien qui te fera du tort, il n'y a rien qui t'apportera quoi que ce soit, si ce n'est ce qu'Allah Rabbul Izzah a déjà décidé. Ça, c'est ce qu'on avait expliqué la dernière fois. Et on avait vu également le juste milieu, quand le prophète me dit que ne place pas donc ta confiance sur les gens. Ça ne veut pas dire pour autant que quelqu'un t'a aidé, hein, quand tu étais en difficulté, et tu dis que non, je n'ai même pas à te remercier, je remercie Allah, toi tu es un intermédiaire, tu n'as rien fait. Personne ne va se dire qu'attends, mais ça c'est de l'ingratitude. Et là nous voyons le juste milieu de notre din. Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Celui qui n'a pas remercié les gens, n'a pas encore remercié Allah. Ça c'est ummatan wasata. Une umma du juste milieu. Tout ça c'est cohérent. Tout ça c'est logique. Tout ça c'est cadré. On voit que voilà, tu remercies Allah, mais ensuite remercie les gens qui t'ont aidé. Si tu ne le fais pas, tu n'as pas encore remercié Allah Azza wa Jal. Ta confiance est en Allah. Tu sais que c'est Allah qui t'a donné. Lui c'est l'intermédiaire. Allah a mis cette bonté dans son cœur. Remercie Allah d'avoir mis cette personne sur ton chemin. Il va le voir et remercie la personne pour l'aide qu'il t'a apportée. Ça t'apporte une clairvoyance. Parce que si ma conviction elle va sur les gens, j'ai besoin de telle personne pour m'aider quand je suis malade, quand j'ai tel problème et tout. Imagine que ces gens-là, ils meurent. Imagine que ces gens-là ne sont pas là. Ou que toi, tu es à l'étranger. Tu es perdu. Psychologiquement, on ne tient pas. On se dit que je suis abandonné, il n'y a personne. Parce qu'on a l'habitude de s'agripper à droite et à gauche, à droite et à gauche. Mais tout ça, c'est des convictions faussées. Quand l'yakin est en Allah, je sais qu'Allah est capable de m'aider avec ou sans asbab. C'est là que le iman il est fort. Et c'est là que psychologiquement aussi, on est fort. On ne devient pas comme des gens qui ont toujours besoin des autres, hein, qui sont en train de se rabaisser. Ah ben, tu peux m'aider, oublie pas, s'il y a quelque chose, pense à moi, ainsi de suite. Des gens qui se rabaissent parce que psychologiquement, ils sont faibles. Parce que spirituellement, ils sont faibles. Il y a un souci de yaqin, de confiance en Allah Azza wa Jal. On conclut, on a dit qu'on conclut ce soir. 25 minutes, encore 15 minutes, Inch'Allah. Ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a expliqué à Ibn Abbas que personne ne te fera du mal si Allah n'a pas décidé, on a vu que ça, que l'objectif de cette phrase, c'est quoi? C'est d'enlever al-khawf al-tabi'i, la peur naturelle du cœur de l'enfant. Par nature, un enfant est peureux. L'enfant, il a peur. C'est-à-dire, et sa peur, il va le construire en fonction de ses expériences. Lorsqu'il va voir que quelque chose ou quelqu'un lui a fait du tort, ben son cerveau l'enregistre comme étant néfaste, comme étant dangereux. Donc, dans le cerveau, il crée un lien. Ça, c'est mauvais. Et quand il revoit, il a peur. En ouvrant la madrasa cet après-midi, il y avait un petit chien caniche. Un petit chien. Moi aussi, j'aime pas les chiens. Mais s'il ne m'a pas couru en premier, parce qu'il était vraiment tout petit. Il est rentré dans la madrasa, il y a un enfant qui a couru depuis le portail jusqu'au bout de ma classe. Il dit, c'est quoi? Il m'a dit, il y a un chien, Fundi. Je dis, attends, regarde, ce chien, il est comme un chat. D'accord? Puis j'ai mis dehors. Mais c'est pourquoi l'enfant a peur? Parce que peut-être que dans son enfance, il a eu un traumatisme. Il a eu un traumatisme, il a eu un chien qui a aboyé ou je sais pas quoi, il a eu peur, et que du coup le cerveau va ficher cette entité-là comme étant dangereux ou ça peut te faire du mal, donc il faut t'en éloigner. Maintenant, si dès l'enfance, on enlève toutes ces peurs du cœur de l'enfant, j'allais dire de l'homme, du cœur de l'enfant, et que cet enfant grandit sans crainte de mahlouqat, tout en étant prudent bien sûr. On a compris. Pas que Dieu l'enfant, il traverse chemin, il ne regarde pas. Non, ça, on parle, c'est un discours cohérent. La cohérence, c'est ce qu'on a vu depuis le début. En même temps, la confiance en Allah, en même temps, les asbab, les intermédiaires. C'est ça qui fait la wasatiyya, le juste milieu de notre religion. Donc l'enfant qui grandit, et il ne compte sur personne, il n'attend rien des gens. Il ne tend jamais la main. Sans pour autant être orgueilleux ou fier, mais ne tend jamais la main, il a une certaine izza. Et ce izza, cet honneur qu'il a, c'est parce qu'il a confiance en Allah, basse, et qu'il n'a peur de personne ni de rien, parce qu'il a uniquement la crainte d'Allah dans son cœur. Je vous assure que cet enfant, ça va devenir un grand bonhomme. Ça va devenir quelqu'un de bien. Ça va devenir quelqu'un d'excellent. Ça va devenir un leader. Ça va devenir comme Ibrahim, inna Ibrahim akana. Ummatan qanita. Le Coran, Allah Rabbul Izza décrit Ibrahim alayhi salam, Ibrahim l'homme, un homme, prophète, comme étant ummah. C'était comme une, mashallah, une personne qui représente la force spirituelle, psychologique de. Et on a vu l'exemple d'Umar ibn al-Khattab dans une prêche du vendredi. Hein, l'armée, le chef de l'armée dans je ne sais pas quel pays qui est en difficulté, d'Umar ibn al-Khattab, envoie-nous, c'était quoi, 4 ou 6, j'ai plus relu le texte depuis aussi, envoie-nous, on va dire 4, envoie-nous 4000 soldats. On est en guerre, toutes les populations ont fait des guerres. D'accord? La France a fait la guerre, l'Angleterre a fait la guerre, l'Amérique a fait la guerre. Donc, les musulmans étaient en guerre contre un autre pays et ils sont en difficulté. Demande à Amir al-Mu'minin, sous le règne de Umar al-Khattab, le calife, on a besoin de 4000 soldats. Umar envoie 4 personnes. Les 4 arrivent, c'était des sahaba. Umar a envoyé des grosses pointures, des costauds. Des sahaba, ceux qui ont connu Ahwal. Ceux qui ont connu Tarbiya avec le Prophète sallam. Il envoie 4 avec un khitab, avec une lettre. Il dit, oh, chef de telle armée, hein, celui que Omar avait délégué, tu m'as demandé 4000, je t'en envoie 4. Mais chaque personne a le iman de 1000 d'entre vous. Chaque personne que j'ai envoyée, j'en ai envoyé 4. Chaque homme a le iman de 1000 personnes de votre génération. Donc considérez ces gens. Et avec le iman, vous aurez ralaba, vous aurez la victoire. Ça, c'est quwwatul iman qui amène la force psychologique, qui amène un najah, l'ouverture, l'acceptation et la facilité de toute chose. Et la réussite dans tout ce que l'on entreprend, parce que nous bénéficions de l'aide d'Allah, nous avons mis en pratique le din d'Allah Azza wa Jalla. Yahfazuka, donc Allah te protège. Tajidhu amamaka, Allah est toujours avec toi. Il te guidera toujours, il te donnera toujours la bonne décision à prendre, que ce soit din ou dunya. Donc c'est quelqu'un qui va réussir à condition qu'il a construit une relation parfaite avec Allah Azza wa Jalla. Donc après avoir donné ces conseils, le prophète alayhi salatu wassalam conclut en disant, Ibn Abbas radiallahu anhuma, sache ô mon enfant que rufi'at al-aqlam wa juffat al-suhuf, j'ai pas amené la traduction, khair, que les stylos, il y avait une façon un peu plus éloquent de le traduire, je ne l'ai pas, que les stylos ont été levés et l'encre a séché. C'est-à-dire que ce qui est écrit dans le taqdir, ça c'est pour toi, bas. Et qui c'est qui a prédestiné toute chose pour l'homme? C'est Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire que ne te en ce sens, c'est moi qui dis, ne te prends pas la tête, ne te fais pas des soucis inutilement. Grandis bien, grandis le cœur apaisé. Sache que ton rizq, ta nourriture, c'est biyadillah. Sache que ta vie, combien de temps tu vas vivre, c'est Allah seul qui connaît. N'aie pas peur des gens, n'attends pas des gens. Tu n'auras que ce que ton Seigneur t'a déjà donné. Et si tu sais que c'est Allah qui donne, donc, إِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, tu as besoin de quoi que ce soit, lève les mains et demande à ton Seigneur. C'est-à-dire que l'enfant, il va grandir, j'aime pas ces termes, cool, zen, le cœur apaisé, sans crainte, sans angoisse, parce que sa confiance est entièrement en Allah Azza wa Jal. Et il n'aura pas la peur du lendemain non plus. Qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que je vais avoir un travail? Et ainsi de suite. Vous savez, si on commence à se poser toutes les questions et les pires des questions concernant nos enfants, on ne dort plus ce soir. Là, il est en cinquième. Hein? Est-ce qu'il va réussir? Est-ce qu'il va passer en quatrième? En quatrième, il aura élevé deux. Est-ce qu'il va comprendre une telle langue? Est-ce qu'il va arriver en troisième? Est-ce qu'il va réussir son brevet? Quelle seconde? Quelle orientation? Quel lycée? Et ainsi de suite. Avec la crise, avec le chômage, est-ce qu'il va avoir son bac? Est-ce qu'il va avoir un travail? Est-ce qu'il va avoir un stage? Est-ce qu'il aura de l'argent? Est-ce qu'il pourra se marier? Il y a tellement de situations complexes que si tu t'imagines que c'est toi, père de famille, c'est toi, être humain, qui règle tout ça, khalas, il ne vaut même pas la peine de vivre. Un jour, on pète les plombs. C'est Allah Azza wa Jal qui organise tout. Et des fois, on pense, hein, et ça c'est important, parlez avec Allah de votre cœur. Il faut qu'intérieurement, quand ça ne va pas, vous êtes triste, pas besoin de dire des choses, pas besoin de faire de la karat et tout. Parlez avec Allah de le cœur, avec la conviction qu'Allah est, Allah Rabbul Izzah t'entend. Et Allah te connaît parfaitement. C'est comme quand vous allez chez un médecin, l'exemple est décalé, et que le médecin, il a votre dossier. Il connaît depuis le début, depuis peut-être, c'est lui qui vous a soigné, il était votre pédiatre quand vous étiez petit. Il connaît tout votre parcours. Et il connaît également vos faiblesses psychologiques. C'est quelqu'un qui est, hyperchondriaque, c'est quelqu'un qui a peur des maladies, est-ce que quelqu'un qui a vraiment des risques de diabète ou des risques de telle chose. Il vous connaît parfaitement. Il sait exactement ce qu'il faut pour vous. Bien au-delà de ça, Allah Azza wa Jal connaît la situation physique de chaque personne, la situation spirituelle de chaque personne, la situation psychologique de chaque personne, connaît son passé, son présent, son futur, son avenir. Allah Azza wa Jal nous connaît entièrement. Et maintenant, imagine, on a combien d'êtres humains en ce moment sur la Terre? 8 milliards? 8 à peu près. Ben, ces 8 milliards-là, Allah les connaît comme une seule personne. Allah connaît le cas de chacun des 8 milliards de personnes, depuis leur naissance jusqu'à leur mort. Quand, si par exemple, 5 milliards de personnes, ils ont une idée, ils vont faire quelque chose. Quand vous allez faire quelque chose, votre cerveau fait passer un message, je vais faire ça. Ou vous le faut juste dire, ou je vais fermer la porte, ou je vais faire telle chose. Si ces 5 milliards, ils ont une idée, à la même seconde, Allah Rabbul Izzah connaît tout ce qu'ils pensent en même temps. Parce que ça, c'est Allamul Ghuyub. Allah est celui qui connaît tout. Ben, quand on développe ce husnul dhanni billah, cette conviction de la puissance d'Allah Azza wa Jal, je vous assure que quand vous faites du'a, vous êtes sûr qu'il vous entend. Quand vous faites du'a, même si tu murmures, même si tu t'es réveillé dans la nuit, pas la force, comme ça, mais tu fais dans le cœur, tu sais qu'Allah t'entend. Même si tu n'as pas eu le courage de te lever et faire deux unités de prière, tu t'es juste assis sur ton lit, tu as levé les mains, tu as dit, oh Allah, je suis fatigué, j'ai besoin de redormir, mais ça c'est une heure où les du'as sont acceptés, oh Allah, tawba, oh Allah, pardon, accepte-moi, donne-moi ta offre de revenir sur le droit chemin, pardon pour mes péchés. Après tu te rallonges, tu dors, Allah t'a écouté. Ikhwani fillah, tawakkalu ala Allah, ista'inu billah. Gardons cette confiance en Allah Azza wa Jal. C'est cette conviction que le prophète alayhi salatu wa salam instaure dans le cœur d'Ibn Abbas et que le prophète donc enseigne à chaque papa et à chaque maman d'enseigner, de faire passer ce message à leurs enfants. Et enfin la dernière phrase, alors si je retrouve mon texte, Rufi'at al-aqlam, on a dit, et le prophète dit également dans une deuxième version, wa ma akhta'aka, لم يكن ليصيبك. Ça, on ne va pas développer parce qu'on avait déjà expliqué dans le iman bil qada et wal qad, la foi sur le destin. Sache, ô mon enfant, que ce que tu n'as pas pu avoir, ben, ça ne t'était pas destiné. Ce que tu n'as pas pu avoir, tu n'aurais, ce que tu n'as pas eu, ben, ce n'était pas prévu même pour toi. N'aie pas de remords, de regrets. Quand il n'a pas eu quelque chose, il dit que oui, j'aurais dû faire ça pour avoir. Si tu n'as pas eu quelque chose dans ta vie, c'est qu'Allah ne te l'avait pas prédestiné. Donc ne sois pas triste. La tahzan. Et ça c'est renforcement psychologique du jeune et de l'adolescent, de l'adulte. Ne jamais vivre, ne jamais être traumatisé par les situations d'échec. Le plus grand traumatisme qu'un homme peut connaître, ce sont les traumatismes qui sont liés à l'échec. Il passe un examen, il a raté. Je connais le cas d'un jeune brillant, intelligent. On promettait beaucoup de choses. Il a passé un examen, je ne sais pas quel genre d'examen, est-ce que c'était très compliqué, un concours ou autre. Il a raté. La personne perdue, perte de confiance. Il n'a plus confiance en lui. La personne a jeté l'éponge. Il n'a pas voulu repasser. Il n'a plus confiance. Il ne veut même plus reprendre les études. Ça, c'est de la faiblesse psychologique. C'est-à-dire que quand la personne n'obtient pas quelque chose, il doit se dire que ça, c'est la décision d'Allah Azza wa Jal. Maintenant, bien sûr, je reprends le discours, je le répète, avec les asbab. Hein, là, on fait passer le message aux jeunes ou aux moins jeunes. On va passer un examen, le bac ou la licence ou un master, ainsi de suite. Fais ton travail. Shtaril. Fais les efforts. Fais les efforts, ensuite, place ta confiance en Allah. Et après, si tu n'as pas eu, tu n'as pas eu telle chose, c'est Allah, sa décision. Ne te remets pas en question. Si tu te remets en question, tu vas faire plus d'efforts, tu vas faire plus de doigts, mais ne t'accable pas. Ce n'est pas la fin du monde. C'est le taqdir, c'était écrit comme ça. J'expliquais à un jeune, il y a en voiture, j'expliquais à une personne que quand j'ai passé mon permis, ben, la première fois que j'ai passé la conduite, j'ai raté. Et j'étais très triste, c'est normal, faites 20 heures, puis c'est cher aussi. D'accord, vous ratez, il faut repasser, ainsi de suite. J'ai dit, mais seulement, ce n'est pas parce qu'on rate qu'on se considère comme nul, mauvais, qu'on ne vaut rien, ça c'est... C'était pas qu'un taqdir. T'as fait les efforts? Oui. T'as fait qiyam ul-layl? Oui. T'as fait dua? Oui. T'as eu dua des parents? Oui. T'as fait shuruq le matin avant de partir? Ishraq? Oui. Khalas, t'as fait tout ce que tu pouvais en termes de asbab, en termes de tawakkul ala Allah, de dua. Tu n'as pas eu, c'est pas de ton taqdir. C'est un dars. C'est une leçon pour toi. Et la prochaine fois, tu vas orienter d'une meilleure façon tes efforts. Et après, on obtient, alhamdulillah. Et puis tu traces ton chemin. C'est-à-dire que l'enfant, si, ou le jeune, ou même l'adulte, s'il perd confiance en lui dans l'échec, dans une situation d'échec, il va devenir faible. Et quand une personne grandit dans la frustration, ben, la personne n'est plus sûre de lui. Il a besoin de prendre une décision, il ne sait pas quoi faire. Il a besoin de demander 50 personnes. Je ne parle pas que il ne faut pas faire mâchoire, il faut faire mâchoire. Mais il y a des gens qui ils n'arrivent pas à prendre une décision. Il faut que les gens décident pour eux. C'est quoi ça? Ça, on ne fait pas le psychologue ni le psychiatre. Hein. Ça, il faut remonter bien des années avant. Il y a dû avoir une situation où la personne a perdu pied et perdu confiance en lui. Et il ne sait plus prendre les décisions. Il pense que je vais prendre ce choix. Il va reproduire les mêmes erreurs. Il va reproduire le même scénario. Alors que le prophète met en scène cet enfant. Vous voyez, subhanallah, il y a des manuels de psychologie qui auraient pu être écrits par rapport à ce hadith, subhanallah, sur l'éducation de l'enfant. Il dit que, oh mon enfant, ce que tu n'as pas obtenu, ben sache que ce n'était pas marqué pour toi. Comme on dit en créole, tu n'es pas marqué pour mon frère. Ce n'était pas écrit dans ton destin. Donc ne t'accable pas et retourne vers Allah. Demande à Allah ce qu'il y a de meilleur donc, en conclusion. Et les dernières phrases, wa'alam anna nasra, trois phrases juxtaposées, tout simplement magnifiques. Wa'alam anna nasra ma'a sabr. Oh mon enfant, sache que l'aide d'Allah vient à partir du moment où tu feras preuve de patience. Et l'ouverture, c'est lorsque tu as passé les étapes de al-karb, des difficultés. Il y a les difficultés que tu es en train de passer là. L'enfant ne doit pas voir les difficultés comme étant des situations coincées. Non, ce sont des difficultés. Allah va te tester. Monte, surmonte. Passe toutes ces épreuves et Allah va envoyer ton aide. Allah est en train de te tester. Du coup, lorsque ce jeune y grandit, il rencontre des difficultés, il ne va pas s'accabler sur son sort. Il ne va pas se plaindre avec tout le monde. Il ne va pas tendre la main, aidez-moi. Non, il dit que non, je reste ferme. Je continue, j'avance. C'est comme ça qu'Allah m'éprouve. Et en finalité, Allah va exaucer mes doigts. Al-faraja ma'al-karb. Ma'al-karbi. Wa anna ma'al-usri yusra. Et que l'aide, la facilité vient avec la difficulté. Ça rejoint le verset du Coran également. Quand on vit des situations difficiles, sache qu'au-delà de ces situations difficiles, il y a fathum min Allah. à condition que tu as placé ta confiance en Allah, à condition que tu aies la réaction du mu'min, que tu as su gérer l'épreuve comme il le faut, et avec ça, incha'Allah Azza wa Jal, il y aura l'aide de la part de ton Seigneur. De cette façon, vous croyez que c'est un jeune qui sera faible, ça? Il sera fort dans sa tête. Quelles que soient les situations qu'il va vivre, il sait que tout ça, ça vient d'Allah. Je dois me montrer courageux. Husnu dhanni billah. Ça, c'est les bases pour avoir la pensée positive sur notre Seigneur. Et il sait qu'Allah est en train de me tester, m'éprouver, et qu'à un moment donné, Allah va envoyer sa nusra, va envoyer son aide. Et c'est un enfant qui, en plus, si on l'éduque bien, il va prendre comme exemple les anbiya alayhim salatu wassalam, les sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in. Combien de difficultés ils ont vécu de leur parcours et comment à chaque fois ils obtenaient l'aide d'Allah Azza wa Jal. Donc c'est un jeune qui deviendra brillant. Ce deviendra quelqu'un de fort psychologiquement, spirituellement, et c'est quelqu'un qui aura une foi complète, qui lui sera profitable, et qui sera profitable à nous-mêmes en tant que parents, et à notre entourage également. Et en commenté également, les ulama disent que quand le prophète dit à cet enfant, à Ibn Abbas, « Wa'alam anna nasra ma'a sabr » que l'aide d'Allah vient quand tu fais preuve de patience. Le commentateur dit que le prophète parle des trois catégories de patience. La patience dans les bonnes actions, reste ferme dans les bonnes œuvres. La patience face au péché, éloigne-toi des péchés, même si ça te tente ce péché, mais reste patient, contrôle ton nafs, ne chute pas, ne faiblis pas. Et la patience d'une manière générale face aux difficultés, ben ça rejoint ihfazillah. Protège le dîne d'Allah, c'est quoi? Apprends, fais de bonnes œuvres, fais pas de péché et invite vers le dîne d'Allah, fais la da'wa. Mais c'est ça, on retrouve le sens de ihfazillah dans la conclusion que la patience, c'est avec la patience qu'on aura la nusra d'Allah. Et anna nasra, où est-ce qu'on retrouve le terme? Anna nasra yahfazuka et tajidhu tujahak. Allah va t'aider et Allah sera avec toi. Ça c'est annas, ça c'est l'ouverture, ça c'est l'aide d'Allah et les conditions, c'est exactement ceux qui ont été cités en amont, on les retrouve dans la conclusion. Ça c'est la beauté, ça. Ça c'est jawami al-kalim, ça c'est la beauté de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en commentaire, bon, ils vont un peu loin dans les commentaires, il dit que l'enfant qui va intégrer ces notions-là, il, même quand il sera éprouvé, parce que le prophète, lorsqu'il enseigne que soit patient même dans les situations difficiles de la vie, c'est-à-dire, il ne présente pas la vie comme un idéal à l'enfant. Pas que tout, confiance en Allah et tu n'auras jamais de problème. Non, bilax. Quand on est dans le droit chemin, on est éprouvé. Pour ça, pourquoi le hadith, il se conclut sur des termes de difficulté, difficulté l'usr, al-karb, les obstacles, al-sabr, la patience. Tout ça, c'est des défis. On apprend nos enfants qu'attention, il y aura des défis à relever. Montre-toi fort, courageux, confiance en Allah, pour que l'enfant, il réalise que la vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille. La vie, ce n'est pas le kawthar. On reprend des termes plus islamiques. La vie, ce n'est pas un kawthar. Ce n'est pas le fleuve du paradis. La vie, c'est difficile. Il y a des moments où tu seras éprouvé, mais garde confiance en Allah. C'est-à-dire que l'enfant, il grandit avec le juste milieu. Une éducation réaliste qui lui fait comprendre, réaliser qu'il y aura des pépins, il y aura des difficultés, mais dans les moments de contentement, de joie, tu remercies Allah, mais dans les moments de difficulté, tu t'en remets à Allah, tu fais preuve de sabre, de patience, et tu trouves l'aide d'Allah par le biais de la prière, et puis on peut rejoindre avec tous les autres hadiths qui donnent les descriptions du sabre, de la façon d'être patient. Et Mohadith, il cite un verset, وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِرَاءِ الْقَوْمِ. Je n'ai pas la traduction. إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ. Mais, en disant que, je n'ai pas la traduction, donc c'est approximatif, que si eux, ils souffrent, c'est-à-dire que si tu vois qu'il y a des mécréants qui souffrent, et que toi aussi tu souffres, ben, c'est la même souffrance. Mais la différence c'est quoi? وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. Le raja, l'espoir, ce que toi tu as dans ton cœur comme espoir envers Allah, eux ils ne l'ont pas. C'est ça la différence. Lui il vit une situation catastrophique. Toi, lui, la personne qui n'a pas la foi, il vit une situation catastrophique. Toi tu as iman, tu es en train de vivre la même difficulté que lui. La différence entre toi et lui c'est quoi? C'est que de ton cœur tu as yakin en Allah. Anna nasra anna sabra ma'an nasr. Non, qu'est-ce que je dis là? Anna an-nasra ma'a sabr, et ainsi de suite, que l'aide d'Allah va venir. Tu as confiance en Allah. Lui, il est éprouvé, il n'a pas de spiritualité, il n'a pas de confiance en Dieu, rien du tout. Ça, c'est la différence. Donc, le juste milieu, il sait qu'il y aura des difficultés, mais tout dépend comment ton cœur, dans ton cœur, tu vis ces situations. Donc, on va s'arrêter à là, Inch'Allah. Puis, il y a un tableau, enfin, nous avons fait un tableau, mais ici, on ne peut pas faire, à Madrasa, on peut se permettre de le faire. Mais, regardez quand le prophète travaille intérieurement, Ibn Abbas, piété, pratique de la religion, éloignement du haram, invité vers le dîn, c'est-à-dire faire la nusra du dîn d'Allah, protection d'Allah. Tes pas seront guidés. Le cœur avec Allah, dans toute situation où tu as besoin de quoi que ce soit, tu t'orientes vers Allah. Allah te donnera ce que tu as besoin. Confiance en Allah. Ne crains pas les gens. Et n'aie pas d'espoir non plus. Ne place pas ta confiance sur les gens. Allah va toujours t'aider dans toute situation. Ne sois pas triste, ne sois pas frustré, ne reviens pas sur le passé. Tout a été maktoub, tout a été écrit. Sois patient, sois endurant. Et avec ça, il deviendra muttaqi et deviendra qawi. Fort également, psychologiquement, cet enfant sera, inshallah, la fraîcheur de nos yeux. Qu'Allah, Rabbul Izzah, nous donne à nos parents les qualités du Prophète, idéalement, mais les qualités du père, salih, du père vertueux, qui pourra transmettre ses valeurs à nos enfants et que nos enfants deviennent des awlad salihin, des enfants pieux qui seront, inshallah, la fraîcheur de nos yeux maintenant, dans notre vieillesse et également de le akhirah. Allah yajma'na fil jannah, inshallah. Juste permettez-moi de conclure. Alhamdulillah, on a terminé ce long hadith, on a pris beaucoup de temps, mais wallahi l'azim, ce hadith là il est magnifique, il est basique, comme le hadith de Arkanul Iman, les branches de la foi. C'est des hadiths de base, on a besoin de travailler ça, avec ça on peut décoller spirituellement. En écoutant notre collègue, vous avez vu sur le tableau hier, il y a eu l'enterrement du fils d'un de nos collègues, un alim de Saint-Paul qui s'appelait Shaukat Limbada. C'est un jeune qui a mon âge à peu près, un ou deux ans de plus que moi, donc à peu près même génération. Il avait deux enfants, il avait un garçon de 13 ans qui depuis plus d'un an était atteint de leucémie, cancer au niveau du sang. Donc c'était vraiment une situation compliquée, avec des interventions, des traitements, qui, avec des situations parfois favorables, parfois défavorables. Mais un alim, c'était un savant, c'est quelqu'un qui avait, machin, des sifad, qui a des qualités. Et alhamdoulilah, il a su garder confiance en Allah Rabbul Izzah en tout instant, jusqu'à ces derniers moments difficiles où son fils était pendant plus de 10 jours, dans le coma, vraiment des situations qu'Allah le protège. On ne souhaite, personne ne peut souhaiter vivre de tels ibtila, parce qu'Allah Azza wa Jal éprouve les gens en fonction de leur foi, en fonction de leur potentiel spirituel. Si quelqu'un, comme le Prophète dit, achadun nas bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal fayubtala ar-rajul 'ala hasabi dini, l'homme est éprouvé en fonction de son din, en fonction du quota de islam qu'on a en nous. Fa in kana fi dinihi salaba zida fi bala'i, lorsqu'Allah Azza wa Jalla voit de la fermeté, une foi solide, Allah envoie plus d'épreuves. Et ça, on rejoint le hadith ibn Abbas. Comment ça? Je suis dans le droit chemin, normalement tout doit être ouvert pour moi. Non, tu es dans le droit chemin, Allah va t'éprouver. Comment tu développes ta confiance en Allah pour te tester, comme les anbiya alayhim salatu wassalam a été testé, comme Ibrahim, comme Younous, comme Moussa, comme Ayyub, comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et comme l'intégralité des prophètes. Il y a une parole avant la salat al-janaza, il s'est adressé au public quelques instants. Et je vous assure que lorsqu'il a parlé, il a dû parler 2 minutes ou 3 minutes. Là, je repense, c'était comme lorsque le prophète alayhi salatu wassalam s'était adressé aux sahaba dans un maqbara, dans un cimetière. Les sahaba disent qu'anna ala ru'usina at-tayr, c'est une expression en arabe. Les gens étaient figés, immobilisés. Ils écoutaient le prophète alayhi salam sans battre les yeux, sans bouger un doigt. Ils étaient figés. C'est une situation dramatique. Donc, ils écoutaient le prophète. C'est exactement ça. Les gens attendaient. On était tous alignés. Et il a parlé des derniers instants de son enfant, de son fils, de sa patience, de son endurance et de le fruit de tarbiya qu'il a vu de ses 13 années d'éducation, le fruit de cette patience, de cette éducation qu'il a vu. Et subhanallah, tout le bien qui émanait de cet enfant. Je vous assure qu'il n'y avait pas une personne à l'assemblée qui n'a pas pleuré, tellement c'était des paroles poignantes. Puis je me dis qu'avoir un enfant à qui on a donné une bonne éducation, même s'il quitte ce dunya un âge, subhanallah, je ne pourrais pas dire prématuré, Allah seul le sait, un si jeune âge, mais qu'on voit la concrétisation de notre enseignement, de la parole d'Allah, de la parole du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la vie de cet enfant, c'est la concrétisation pour ses parents. Même si l'enfant ne vit pas avec nous toute notre vie et qu'il ne devient pas un grand médecin ou autre chose qu'on dit tout à l'heure, mais le fait de voir que son iman est là, il rejaillit. La foi, on le voit dans sa manière de parler, dans sa manière d'être patient, d'être endurant dans la maladie. Il savait que Allah va me donner la... Il disait, Allah me donnera la santé et un jour ça ira mieux. Cette confiance en Allah et cette acceptation du taqdir, que ça vient d'Allah. Un enfant de 13 ans qui n'est pas balé, qui tient ce genre de discours, je vous assure que ça, c'est la concrétisation d'une tarbiya réussie. Et il a dit une parole, j'ai expliqué ça à Riyad tout à l'heure, je n'ai pas pu compléter tellement j'avais de l'émotion. Il disait que lorsque sa situation s'est dégradée à la fin, et qu'il devait aller donc à l'hôpital, il ne pouvait plus rester chez lui. Il dit que c'était l'heure de Asr. L'enfant, il dit à son papa que je vais faire Salat al-Asr et après on va aller, on va quitter, on va partir. Papa dit, tu es pas baligh, tu es encore petit, tu n'as pas de péché, la Salat n'est pas obligatoire sur toi. Allah va te pardonner en plus dans quelle situation tu es. L'enfant dit que non, je dois faire ma Salat, ça c'est obligatoire. Il dit que sa situation, sa santé était telle que l'enfant ne pouvait plus bouger sa jambe. Il dit qu'il faisait ses ablutions, à un moment donné il ne pouvait même plus lever sa jambe pour se laver les pieds de lavabo. Il a dit que c'est le papa qui parle, ce n'est pas des histoires. Il dit, il a vu son fils agripper des deux mains le lavabo, tenir pour pouvoir mettre son pied, pour laver son pied, essayer de faire son tahara, son wuzu, pour faire la salat. Imaginez en même temps la tristesse quand on voit un enfant qui est malade, mais en même temps, ça c'est moi qui interprète, hein. En même temps on voit que ça c'est l'éducation que je lui ai donnée. Je lui ai appris que as-salah, jamais rater une salah, jamais manquer un sijda devant Allah Azza wa Jal. Ça c'est tarbiya réussi, ça c'est des enfants qui sont avec vous dans le Jannah. Qu'Allah Azza wa Jal, on fait un doua pour notre collègue qui s'appelle Shawkat Limala, qu'Allah Rabbul Izza appelle son cœur et le cœur de sa femme, de ses parents, de ses grands-parents, des deux côtés, du côté de la maman, du côté du papa, des deux familles, qu'Allah Azza wa Jal apaise leur cœur, fasse descendre la sakina, la tranquillité, et qu'ils ressentent halawatul iman, la douceur de la foi qui vient de l'acceptation du taqdir, du destin, et qu'Allah Rabbul Izza leur accorde dhurriyatan tayyiba, d'autres enfants qui seront la fraîcheur de leurs yeux, et qu'Allah Rabbul Izza les réunisse dans le Jannah, et qu'Allah nous accorde un peu de leur récompense. Allahumma amin wa ma tawfiq illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Et ça, j'ai dit ensuite à mon épouse, à mes proches, quand on voit ce genre de situation, aimez vos enfants. Aimez vos enfants. Il faut les éduquer, mais il faut être gentil avec eux, il faut les aimer. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer demain, après-demain. Notre confiance en Allah Azza wa Jal. Mais donnons tout ce que nous pouvons donner à nos enfants. Ce n'est pas de l'argent, donnons le temps, donnons de notre cœur, donnons de l'amour. Faisons en sorte que l'enfant il se sente bien quand papa et maman est là. Faites en sorte qu'il y ait un échange d'amour. On doit donner de l'amour parce qu'on ne sait pas, personne ne sait combien de temps il va vivre. Qu'Allah nous accepte. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair.